21 au 25 avril, le théâtre de Lanche, dans le quartier du Panier à Marseille, présente Farce, une création de Jérémy Béchon et Jean-Baptiste Couton, deux auteurs et metteurs en scène du collectif Manifeste Rien. Toujours saupoudré d'une dose d'humour, le travail des membres de ce collectif consiste à lier l'art à la philosophie, aux politiques et, comme son intitulé l'indique, aux petits riens qui animent nos vies. Farce, cette pièce d'1h20 se définit comme un conte contestataire qui tente à souligner les origines de l'homme, du langage et du pouvoir. Au début, un présentateur, seul en scène, un monsieur loyal, un speaker télé ou encore un fou conteur, est chargé de dérouler le récit de la tribu humaine. Ses interventions, portées par une voix puissante, sont ponctuées de scènes dialoguées qui reprennent des moments du conte pour les matérialiser par le jeu des acteurs. Tour à tour, des références. Nous assistons à des querelles de couples très contemporaines, des luttes de pouvoir shakespeariennes. On évoque également les questions politiques de l'entre-deux-guerres, jusqu'à Christophe Colomb découvrant les Amériques. En se partageant une trentaine de personnages, les quatre comédiens, Virginie Aymon, Olivier Boudran, Cyril Laurent et Magali Dussartel, endossent une succession de transformations, de travestissements, et se prêtent même à quelques envolées lyriques et grotesques. Souvent dissimulés sous des masques, un clin d'œil à la Commedia dell'arte, et très juste dans leur rôle, ils nous entraînent dans un voyage de mots, tour à tour cru et châtié. Un parti pris pour dynamiser sans cesse la dramaturgie de l'œuvre. Rien d'étonnant à ce que les auteurs aient puisé leurs sources parmi les textes de quatre grands philosophes et anthropologues. La société contre l'État de Pierre Clastre, une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn et l'anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Pour mémoire, rappelons que Pierre Clastre, philosophe de formation, s'est intéressé à l'anthropologie américaniste, notamment sous l'influence de Claude Lévi-Strauss. Howard Zinn, dont les écrits s'inspirent largement du marxisme, est un acteur de premier plan du mouvement des droits civiques comme du courant pacifiste aux États-Unis. Gilles Deleuze a écrit de nombreuses œuvres très influentes sur la philosophie, la littérature, le cinéma et la peinture. Enfin, Félix Guattari, militant très à gauche, mais aussi philosophe et psychanalyste, a soutenu de nombreuses causes de minorité. Jérémy et Jean-Baptiste, bonjour. Nous venons juste de citer ces quatre philosophes qui ont inspiré votre travail. Alors, la première question est évidemment, pourquoi eux ?
Pourquoi ces auteurs ? En fait, c'est trois livres qui sont des œuvres donc, de philosophie et d'anthropologie n'ont pas été choisis au préalable. Par contre, ils ont été embarqués dans le processus d'écriture.
Ils vous ont inspiré ?
Ils nous ont inspirés, sachant qu'ils n'ont pas été choisis rationnellement avant même l'écriture. Ils ont été compris dans le processus d'écriture.
Ils nous ont aussi permis d'avoir des points de référence de manière à pouvoir construire une écriture commune. C'est-à-dire que ces trois auteurs nous ont permis de pouvoir engager des discussions sur des références communes.
Et pourquoi avez-vous choisi donc de donner ce nom à votre spectacle Farce ?
Le mot farce a été, je crois, le premier mot de la pièce. L'idée, c'était de prendre l'histoire comme une farce. Tout ce processus chronologique, cette idée de progrès, cette évolution était pour nous pris comme une farce, une manière d'organiser les choses qui pourraient être complètement autrement.
Vous l'avez détourné.
Okay. On l'a détourné. Et ensuite, on est revenu aussi sur l'idée que la farce est une forme théâtrale moyenâgeuse. Teinté de burlesque, souvent qui fait appel à des faits banals et qui souvent est coupé par un mystère. Et le mystère, lui, par contre, parle de la religion et est censé faire venir les gens à Dieu. Et la farce, en fait, était un intermède comique au mystère.
À partir de ces ouvrages, combien de temps vous a-t-il fallu pour mûrir votre propre texte et aussi monter ce spectacle ? comment avez-vous fonctionné l'un et l'autre et l'un avec l'autre ?
Alors, il nous a fallu 2 ans pour l'écriture de farce. Le processus d'écriture s'est fait par une série d'allers-retours. En fait, on écrivait une scène, le suivant la corrigeait, et elle était repassée au premier, etc., etc. Donc ça, ça a pris 2 ans, et ensuite, pour le travail de mise en scène, on a fait 4 résidences, en fait, donc sur 4 ans, d'à peu près 2 semaines. Et là, pareil, c'était un travail en amont, ensemble, sur le papier, et ensuite un travail d'aller-retour avant les séances de répétition.
Vous aviez donc les mêmes missions.
Ouais.
On peut pas marcher en mise en scène en aller-retour comme sur un papier, puisqu'on a affaire à un comédien, et c'est pas un... comme il nous le dit souvent, c'est pas des Playmobil. Donc, il y a, en fait, sur la mise en scène, il y a un travail qui se fait en amont, de passer au plateau, où on travaille Jean-Baptiste et moi-même. Et après, parce que les gens sont souvent étonnés qu'on co-dirige les mises en scène, ce qui se passe le plus souvent, c'est que Jean-Baptiste trace les grandes lignes dramaturgiques des scènes, parce qu'il est apparemment meilleur que moi pour faire ça. Et par contre, au fur et à mesure qu'on se rapproche du jour J, moi je recadre, en fait. Et j'ai un travail où j'aide plus le comédien d'un retour très précis sur là, ton déplacement est faux, ta voix est trop portée, tout ce travail de réajustement. C'est dans la mise en scène, c'est sur c'est le troisième spectacle qu'on monte, enfin de théâtre, j'entends. Et autant dans l'écriture, on travaille vraiment sur un aller-retour, autant là, voilà, les tâches se partagent un peu plus dans ce sens-là.
C'est-à-dire que vous reveniez au fil de votre travail dans les ouvrages que vous aviez lus précédemment.
On revenait dans les ouvrages et on revenait aussi dans le texte lui-même. C'est-à-dire qu'on allait modifier certaines scènes pour les rendre plus audibles sur le plateau.
Mais comment vous est venue l'idée de cette création ? Et aussi, comment avez-vous travaillé votre texte, donc à partir de ceux quand même très difficiles, hein, de ces auteurs ?
Après, ces auteurs-là, il y a mal donne à chaque fois. Ils ne sont pas spécialement difficiles, déjà. Le plus dur, c'est de faire le pas à aller lire et à faire cet effort. Parce que c'est une autre écriture qui est très loin du journalisme ou qui est très loin de la littérature qu'on peut lire. Et il faut faire le pas pour rentrer dans ces livres-là. Mais nous, en tant qu'auteurs, j'allais dire, en tout cas nous, c'est presque notre job, c'est-à-dire lire. C'est un processus qui, pour nous, est naturel.
C'est quand même 3 auteurs qui ont un style. Ce sont des auteurs qui sont typés d'un point de vue littéraire.
Ils sont marqués, oui.
Ils sont marqués, ils ont quelque chose qui est de l'ordre de la sensation et pas uniquement de la pensée. Et je crois que c'est aussi ça qui nous a beaucoup guidés chez eux, quoi.
Et dans ce travail, comment avez-vous abordé le double jeu donc de la tribu, hein, des sauvages, lié à la société ?
C'est essentiellement Clastres qui nous a mis dans ce chemin. La question qu'on continue à se poser dans d'autres textes aussi, c'est de savoir comment le langage d'un instrument d'échange peut devenir un instrument de pouvoir. Nous, on est resté sur cette thèse de Clastres qui dit qu'il y a un conflit entre la société et l'État qui se crée sur le pouvoir qui est donné au langage.
Dans la mise en scène, vous jouez beaucoup avec les éclairages, mais surtout aussi avec la perspective et par notamment différents jeux de construction des éléments de décor. Alors, pourquoi ce parti pris ?
En fait, ça nous a été inspiré par la représentation moyenâgeuse au départ. Les personnages ont des tailles différentes selon leur importance sociale. Et donc l'idée, c'était aussi de placer les différents personnages de la pièce à des hauteurs différentes selon leur importance et leur degré de pouvoir.
Et au niveau de la musique ?
Au niveau de la musique, il y a une partie de création son que j'ai fait moi-même avec les voix des comédiens. Et après, on a utilisé des musiques qui existaient déjà. Et on a pris essentiellement pour la conduite principale du présentateur. Parce qu'après, ce sera peut-être bien que je dise un mot juste sur la construction elle-même de farce, qui est la musique de Thierry Rillet, qui s'appelle Derviche Tourneur, qui sont des improvisations qu'il a faites en 71.
C'est, bon, on peut dire une pièce assez dense, politique, parfois aussi violente. Que voulez-vous démontrer à travers ce spectacle et quel message entendez-vous faire passer aux spectateurs si, bien sûr, il y a un message ?
Il y a ce problème, c'est que message implique que c'est informatif.
Absolument.
Voilà, une œuvre d'art n'est évidemment jamais que informative. elle est aussi ludique, elle est aussi philosophique, elle est aussi politique. Donc de message précis, c'est celui qui est sur le plateau. Après, le message qui peut se tendre, aussi bien dans Farce que dans nos autres projets, on retrouve toujours à la base, je pense, une critique sociale qui est quand même, qu'on nous renvoie comme étant très très forte en permanence.
Vous m'avez dit que ce spectacle n'était pas le plus difficile, entre guillemets, que vous ayez monté. Comment qualifiez-vous votre approche personnelle du théâtre et aussi à quel type de public vous adressez-vous ?
En tant qu'artiste, le public, moi en tout cas, je pense toujours à créer pour tous. C'est-à-dire que je cible pas un public de précis, je cible tout public et je cible aussi le fait que je suis intransigeant évidemment avec moi ce que j'ai à transmettre, que ce soit sur le papier ou sur le plateau. Je pense que beaucoup d'artistes sont dans ce cas-là. Ensuite, la sectorisation des publics, ça dépend plus de nous. Et il y a un endroit où comment transmettre et par quel théâtre on passe et par quelle institution, c'est plus la même chose. Moi, j'aimerais montrer Farce à partir aux gamins de 12 ans. Après, quand vous dites ça à des gens des MJC ou compagnie qui lisent le texte, d'accaparer le sexe, d'accaparer une critique sociale trop forte, d'accaparer une remise en cause du pouvoir, on vous dit mais non, ça c'est pas pour les enfants, ça c'est pas pour tel public.
Désert. Et six êtres disposés en deux triangles aux bases parallèles et opposées. Six êtres nus, recouverts de poussière, plantés comme une seule végétation. Six êtres comme sortis du roc, sur un même modèle brut. Six êtres neufs, avec au centre de chacun d'eux une fissure, un trou profond où le vent s'engouffre en désharmonie de froid. Un trou.
Tron-trou de langue.
Tron-trou de langue que le vent creuse, érode, élargit pour entrer toujours plus. Une scène éternelle. Et, pour briser cette éternité, il faut qu'un être au sommet de son triangle se soulève et flotte lentement vers sa base jusqu'à se stabiliser en son centre, formant une ligne. Il faut que le vent se déchaîne, que le vent décuple son vrombissement autour de l'être qui occupe le sommet de l'autre triangle, toujours intact. Il faut qu'il, le vent, le mette en branle, l'autre, l'être au sommet de l'autre triangle. D'abord, il tremble, l'être de cet unique triangle, avance avec l'extrême lourdeur de son corps de pierre et de chair.
Il va vers sa base,
raclant le sol, menaçant de se rompre à tout moment. Et plus il avance, plus son corps se fend, se morcelle. Et avant qu'il, cet être fendu, n'atteigne la base de son triangle, son corps explose en confettis de sang. Le vent, toujours plus violent, recouvre de poussière et de chair les quatre êtres restés aux anciennes bases des triangles. Le vent, dans un tourbillon de glaise pourpre, les entraîne vers l'être soulevé, et les fondent en une masse monolithique, que la poussière du désert vient heurter et grossir.
La mise en scène, donc, comment vous la présentez, vous l'abordez ?
Alors, en fait, il y a eu... sur la mise en scène, il y a eu d'abord, sur les premières résidences, où on a utilisé directement la force brute de l'acteur. Et parce qu'on avait quatre comédiens qui venaient de quatre horizons très différents, et les quatre ont proposé, ils se sont ont pris complètement en main les personnages et les ont fait presque exploser là où nous on serait peut-être pas allé. Et on a exploré comme ça sur chaque résidence plusieurs voies. Et le travail qui a été fait là sur cette dernière session, ça a été utilisé cette force brute et qui est très très belle de l'acteur qui échappe presque au canevas du metteur en scène auquel il est toujours tenu. Et après, par contre, avec toutes ces études, on les a replacés dans l'espace, replacés dans une ligne dramaturgique et j'allais dire presque recadrés finalement là où l'énergie explosait sans cesse pour qu'elle soit perceptible au mieux. pour le propos de la pièce et pour le spectateur.
Alors, un mot pour terminer sur le collectif Manifeste Rien, dont vous êtes, je crois, tous les deux issus.
En fait, on s'est rencontrés très tôt avec Jérémy, quoi, en 99, et on a commencé par mettre en place une écriture commune et qu'on a essayé de faire partager autour de nous par des lectures, de la musique aussi, des mises en musique. On avait créé un petit cabaret qu'on a fait tourner quelques temps à Marseille et on s'y est retrouvé ensuite 2-3 ans après autour d'un projet, quoi, d'un texte que j'avais écrit et qu'on a monté sous forme de lecture. Et à partir de là, on a fait appel aux gens qui étaient autour de nous, qui étaient soit musiciens, soit comédiens, soit certains plasticiens maintenant, pour essayer de travailler ensemble.
Et comment vous définissez le travail du collectif ?
Généralement, on part d'une proposition quoi, souvent textuelle. Et ensuite, ce qu'on attend, qu'on la met comme en pâture à d'autres compétences. Donc l'idée, en fait, c'est de partir d'un texte et de voir comment il peut être retravaillé par de l'image, par du son, ou par la voix de comédiens ou le corps.
Et les projets du collectif ?
Alors là, on part dans 2 semaines à un lieu qui s'appelle Fait divers en Brun. Et on travaille sur une coécriture encore, où on va travailler le multimédia, en fait.
La farce, on est jusqu'au 25 avril. Ensuite, on va à Fait divers, où c'est une résidence de création pour du théâtre multimédia. Voilà.
Je crois que vous avez amené avec vous un extrait du texte de farce. Vous voulez bien nous le lire, s'il vous plaît ?
Ouais, juste pour l'introduire, c'est une réplique de Christophe Colomb, qui est un des personnages récurrents de la pièce, et qui était très important pour nous parce qu'on l'utilise comme caricature de la figure historique. Et par rapport aux sources bibliographiques des philosophes et historiens dont on parlait tout à l'heure, on s'est là notamment inspiré du travail qu'a fait Howard Zinn, sur la découverte des États-Unis. Là-bas, avec seulement une cinquantaine d'hommes, nous avons soumis plus de 10 000 Arawaks. Ces peuples au bout des mers avaient projeté une terre sans mal, Iwi Marae, comme ils disaient. Nous les avons soumis à notre quête d'or, à notre élévation. L'exploitation des mines nécessitait une main-d'œuvre soumise. Il était plus difficile de les mettre au travail que de les tuer. Mais il fallait bien justifier la conquête par les bénéfices de la couronne et l'avidité de la couronne par l'ordre divin qu'elle incarnait.
Eh bien, merci Jean-Baptiste et Jérémy d'être passés dans les studios de La Grenouille pour nous présenter Farce, donc votre dernière création. Bonne chance pour toute la semaine au Théâtre de l'Anche. À bientôt.
Merci.
Vous l'aurez compris, ce spectacle n'est pas banal et oblige à une certaine attention, pour ne pas dire concentration, même s'il reste accessible à tous. Farce est présenté au Théâtre de l'Anche à Marseille du 21 au 25 avril, mardi, vendredi et samedi à 20h30 et mercredi et jeudi à 19h. Réservation au 04 91 91 52 22 et sur internet www.théâtredelanche.info. Bon spectacle et belle découverte!